Bon bah salut à tous, donc c'est Silver pour cette première édition des Cahiers du Catch en formule radio. Donc ce soir nous allons avoir un débat autour de la stipulation ligne de sel avec cinq invités prestigieux. Donc honneur aux dames, Sarah Gatina.
C'est moi, Sarah, spécial des Cahiers du Catch.
Et puis pour nous accompagner, nous aurons également Major Tom.
Salut.
Ainsi que le splendide, le sémillant Flying Panda.
Bonsoir, bonsoir, c'est DC Universe.
Notre ami qui représente la minorité belge, Gannett.
Salut.
Et pour finir, donc, l'indispensable par sa science, Tsurgimi.
Salut.
You think you know me?
Après cette présentation rapide, on va commencer par une présentation du concept. Donc, Tsuru, on compte sur toi pour nous présenter le Hell in a Cell de manière générale.
Bon, alors, le Hell in a Cell, c'est une stipule qui a été inventée en 97. Donc, l'Undertaker voulait péter la gueule de Shawn Michaels, voilà, un truc normal, quoi. Donc ça s'est poursuivi au fil des années par des matchs souvent considérés comme prestigieux, entre main eventers, très violents. Et donc je remets un peu en question le fait que ces matchs soient, on va dire, surexposés et surestimés par rapport à leur réelle valeur. Donc c'est un peu autour de ça que le débat va tourner.
D'accord, donc histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et que nos chers auditeurs soient également concernés, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des différentes périodes des grands Hell in a Cell de l'histoire?
Bon, alors c'est une période qui n'est pas officielle, hein. C'est juste moi qui ai trouvé qu'il y avait des trois périodes qui se détachaient. Donc la première, donc du premier match en 97, on va dire à 2000. Bon, bah, c'est les premiers avec peut-être deux des matchs les plus marquants. Donc le premier HBK contre Undertaker et ensuite Mankind Undertaker. Bon, ensuite on a la période entre 2000 et on va dire 2007 où on a toute la série des matchs un contre un, genre Triple H, Batista, Undertaker, Lesnar, où on va même mettre Jericho, Triple H dedans, enfin voilà, genre de match. Et une troisième période ensuite qui correspond au début de la classification PG, donc je rappelle que c'est la classification tout public de la WWE, donc c'est à partir de 2008, on va dire, d'Undertaker Edge, le dernier match qu'on a vu. Donc 100-100 et une violence moins présente.
Donc bah, suite à cette triple présentation des différentes périodes de l'histoire en termes de Hell in a Cell, on s'aperçoit que sur la dernière, le PG donc était présent, ce qui a provoqué l'absence de sang. Du coup, comment est-ce que vous quantifiez l'importance du sang dans cette stipulation? Canette, est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus?
Ouais, alors moi, pour moi, le sang, c'est quelque chose d'important pour cette stipulation. Déjà parce que bon, c'est censé être une stipulation de fin de feud, donc ça rajoute une intensité. Alors après, c'est sûr que c'est pas le truc le plus important maintenant, ça ajoute une plus-value. Voilà, c'est quelque chose d'important, quoi.
D'accord, donc du coup tu valorises bien le sang comme important dans cette stipulation et donc avec une faiblesse dans les dernières périodes où il n'y en avait pas. Quelqu'un pour défendre le fait que le sang n'est pas important, Major?
Je suis pas vraiment d'accord. Pour moi déjà, on a eu des bons matchs ces dernières années, qui sont souvent, pour moi, sous-estimé par pas mal de personnes, parce que bon, on a tendance à dire, ouais, le CM Punk Undertaker l'an dernier, la Orton Cena l'an dernier, bon, on oublie qu'il y a eu un DX Legacy qui était pas si mauvais que ça, que cette année, on a eu un bon, voire très bon match Orton-Sheamus pour le titre, et bon, qui était pas hardcore, il n'y a pas eu de sang, mais c'était bien, quoi. C'était vraiment des bons matchs sans sang. Après, c'est vrai que souvent, c'est souvent fini dans des bains de sang, mais je pense que c'est plus conjoncturel que structurel, en fait. C'est plus on associe le Hell in a Cell à du sang, mais c'est parce que les matchs, les meilleurs Hell in a Cell ont eu du sang, quoi. Et pour moi, c'est pas forcément ça qui fait un bon Hell in a Cell.
D'accord, donc ta position paraît claire. Sarah, position sur le sang dans les Hell in a Cell, du coup, entre les deux?
Ouais, je trouve ça important parce que ça rajoute quelque chose au match, en fait. Plus sauvage, plus violent. Sauvage.
D'accord, la sauvagerie et la violence, ça te parle, donc. Tsurugimi, ton avis?
Ouais, bah, mon avis, il est assez simple. La plupart des lignocelles où il y a beaucoup de sang, bah, je les aime pas. Enfin, à part HBK contre Undertaker, les autres, non. Je préfère d'autres matchs sans sang. Voilà.
Le HBK Triple H, par exemple, tu l'aimes pas?
Ouais, non, c'est un bon match, hein. Là, il y a un problème là-dessus. Mais non, il m'a pas marqué plus que ça, quoi.
D'accord, donc c'est amusant parce que toi, du coup, tu fais ton rating de qualité des matchs inversement par rapport au sang, quoi.
J'ai un peu l'impression que quand on met du sang dans un Hell in a Cell, on a tendance à faire que ça. On essaye de faire de la barbarie pendant une demi-heure. Et généralement, j'ai l'impression que ça se limite à des coups d'escalier, des rapages de tête contre les grillages pendant 20 minutes. Donc au final, c'est pas le sang qui gêne, mais c'est la manière dont le sang est produit.
D'accord. Du coup, je rebondis là-dessus de manière générale. Finalement, dans la construction des matchs, si on passe au-delà du sang, vous pensez que la construction des matchs est ce qu'il y a de principal dans la qualité d'un match à Ines Panda?
Ouais. Bah écoute, j'aime bien quand il y a un peu de sang, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop en faire. Là, j'ai deux exemples qui me viennent en tête, c'est le HBK Taker, le premier du nom en 87 qui finit dans un bain de sang assez horrible, c'est vrai. Ainsi que le en 2000 Armageddon lors du Six Pack, je sais pas quoi. En Russian 6, il y a Angle, Stone Cold, Triple H, The Rock, Rikishi et Taker. Donc c'est vrai que par exemple quand Stone Cold pardon prend la tête de Triple H pour écraser la tête contre le grillage, faire tout le tour de la cage, c'est un peu.
Ah, il lui faisait visiter.
Voilà, il lui a fait visiter. C'est vrai que c'était un peu relou, mais globalement moi je suis pour. Parce que l'utilisation du sang, parce que le Hell in a Cell est par définition une stipule très violente. C'était même à une certaine époque la plus violente. Donc pour moi, c'est normal qu'il y ait un peu de sang. Après, s'il n'y a pas de sang, c'est pas non plus. On va pas pleurer là-dessus, quoi.
Ok, donc du coup, Tsuru, tu nous disais que pour toi, le sang finalement a tendance à baisser la qualité du match et que c'est la construction qui fait la qualité du match. Tu peux nous détailler un peu ce point-là
Ouais, voilà, ouais. Bah oui, donc quand on met pas de sang, j'ai l'impression que les bookers se sentent obligés de faire une vraie histoire. Donc on va dire que c'est un peu exemple contraire le premier match HBK Undertaker, étant donné qu'il y a du sang, mais bon. Il y a un rivet de Kane, il y a aussi le fait que ce soit un truc super nouveau pour l'époque, donc il n'y a pas que du sang. Pareil, Edge Undertaker, bah là il y a pas de sang, mais bon, on a quand même un truc qui est assez violent. On a plein d'exemples qui montrent que beaucoup de Hell in a Cell sont bons sans sang.
Et moi j'aurais bien connaître des exemples de Hell in a Cell mauvais à cause du sang, justement.
Je sais pas, je vais me faire incendier, sûrement Undertaker Lesnar. Enfin, je trouve que, à part l'arrachage du plâtre, je trouve ce match vraiment, vraiment chiant. Enfin, c'est.
Il y a une construction quand même.
Oui, il y a une construction,
mais
bon, c'est. La construction est noyée dans le sang.
Il y a du sang, ouais, c'est vrai.
Enfin, je sais pas, j'ai vu il y a assez longtemps ce match. Mais si je me souviens bien, l'Undertaker et Lesnar passent 20 minutes sur le bord du ring à se foutre des coups de cage dans la tête. Enfin. C'est le souvenir que j'en ai.
Après, c'est la stipulation qui veut ça aussi. Hein.
Ouais, toi, tu dis
c'est bourrin
ça,
par
mais
définition.
En même temps, on peut faire sans tomber dans la bataille de caniveau, quoi.
Ah oui, ça c'est sûr.
Donc, on revient à la construction des matchs. Sarah, point de vue construction, il y a des exemples parmi les Hell in a Cell qui t'ont marqué?
Le Hell in a Cell, en fait, faut qu'il soit à l'apothéose de la FUD.
Du coup, toi, tu vois, là, en termes de construction de la FUD, même plus que du construction du match, quoi.
Ouais.
Et du coup, dans l'histoire, il y avait des grands Hell in a Cell spécialement bien placés pour illustrer ça.
Le Undertaker Edge, quand Edge est mis en enfer.
Dans les flammes de l'enfer.
Je suis assez d'accord. C'était, pour moi, c'est l'exemple de match vraiment bien construit, bien placé dans la feude, vraiment bien, quoi. C'est
ça finit quasiment
le modèle de la Linocell, quoi.
Ça finit 9 mois de rivalité, quasiment.
Ouais, quasiment. Ouais.
Ouais, Canette.
Ouais, pour moi aussi, c'est le meilleur niveau construction. Hein. On n'a pas besoin. C'est dans ce match-là qu'on voit qu'on n'a pas forcément besoin du sang. Alors, c'est sûr que s'il y en avait eu, ça aurait rajouté de l'intensité. Maintenant. Vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs matchs qu'il y a eu dans cette stipulation. Donc, un des trois meilleurs. Donc, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir du sang. Maintenant, c'est sûr que ça rajoute une plus-value, comme je disais tout de suite.
D'accord. Donc, d'après vous, on a fait le tour sur la construction des matchs et des feuds autour du Hell in a Cell. Pas d'exemple majeur qui vous revienne en tête.
Je pense qu'on va quand même, si, on est quand même obligé de parler du pay-per-view Hell in a Cell, même si c'est un lieu commun que tout le monde sait que c'est pas. Que ça gâche un peu les feux, parce que bon, on se retrouve avec ce Hell in a Cell au milieu du mois d'octobre qui est un peu qui coupe un peu tout ou qui est pas forcément bien placé dans la feude. Malgré tout, je crois que c'est aussi ça qui contribue à rendre les Hell in a Cell de ces deux dernières années moins aimés déjà des autres. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de déchets. Quand on voit des Undertaker CM Punk l'an dernier, c'était franchement indispensable.
Ok, bah. Il fallait le dire, Major, il fallait le dire.
Il fallait le dire.
Donc, pour résumer, pour la construction d'un Hell in a Cell, pour qu'il soit efficace, il faut déjà que la feud soit intense, que les deux catcheurs se haïssent, et qu'à la fin, genre au bout de 5-6 mois, t'es un des deux catcheurs qui disent « Bon, maintenant, écoute, mon gars, j'en ai marre de voir ta gueule, on va régler ça dans un Hell in a Cell match. » Et là, de suite... ça lance le match, les gens se disent c'est bon, ils vont en finir une bonne fois pour toutes. Et donc d'avoir un pay-per-view à la fin de l'année comme ça, en plus coincé juste avant entre SummerSlam et Survivor Series, ça enlève le charme.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'accepte tout de suite ton défi de Hell in a Cell, vu comment tu l'as lancé, on peut pas faire autrement. Tsuru, un dernier mot à dire sur la construction?
Ouais, je voulais parler en fait du toit de la cage. Qui est plus utilisé depuis une bonne décennie. Bah, l'exemple donc qui montre que le toit est super important, bah, c'est Undertaker Mankind de 98. Donc sans le toit, c'est clair que ce match ne serait rien du tout. Je pense que tout le monde le connaît, je vois pas juste ce truc. Le match Mankind, en gros, le Mankind tombe deux fois de la cage, une fois sur la table et une fois sur le ring, même si la seconde fois c'était pas volontaire. Donc c'est resté dans les mémoires, enfin.
C'est vraiment toi qui a porté tout le match.
Oui, voilà.
Ouais. Et ils l'ont refait après pour le Mankind Triple H. Enfin Cactus Jack Triple H.
Ouais. On peut aussi parler du Triple H Jericho qui finit avec un pedigree sur la cage et même un compte de 3, ils en sont même pas retournés dans le ring parce que bon, ça a dû les saouler. Et donc l'arbitre fait le compte alors qu'ils sont sur le toit, quoi.
Après on peut se demander pourquoi ils évitent absolument le toit comme ça. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est trop dangereux. D'ailleurs, je crois que pour le Triple H Jericho...
C'est dangereux, ouais, je pense que c'est ça.
Genre, à un moment, il y a un des deux catcheurs, je sais plus qui marche sur une des dalles en grillage, et il y a le grillage qui se défait un peu d'une poutre, enfin, le...
Ouais.
C'est...
c'est assez... Je crois qu'à un moment, ils ont atteint une limite dans le hardcore, et ils peuvent plus faire ça maintenant, c'est plus possible.
Ils savent, ouais, bah,
même en dehors du PG, c'est trop dangereux pour les catcheurs, quoi.
Bah, il y a qu'un seul Mankind, quoi, pour faire ça.
Ouais.
Enfin, je vois pas qui d'autre peut.
Il y a Rikishi aussi, qui a
du masochisme.
Ah, mais bon, là, c'est un spot assez différent. Ouais, piste d'atterrissage.
Oui, enfin... voilà, il y avait le camion à l'entrée du Hell in a Cell. Mais bon. Quand ils aiment balancer les gars qui sont un peu dodus du haut de la cage. Hein.
Ouais, le grâce à Morty, c'est bien connu. Hein.
Mais,
bon, ouais non, vas-y, je te signe, Randa.
Ouais, merci. Juste pour dire que c'est vrai que personnellement, je note une utilisation moindre de la cage. Par exemple, le Orton Chimus du dernier pay-per-view était un bon match. J'ai bien aimé, c'était sympa à regarder, mais pour moi, ça aurait été un match simple, c'était pareil. J'exagère peut-être un petit peu, mais...
Ouais, t'exagères un peu.
C'est pour moi, il n'y avait pas trop l'esprit Hell in a Cell. J'ai pas senti.
Mais je crois que l'esprit Hell in a Cell, il n'existe plus depuis SummerSlam 2008. Hein.
Depuis Edge Taker.
Ouais. Depuis Edge Taker, il n'y a plus d'esprit Hell in a Cell. Hein. Même le Taker Kane de cette année, bon. Hell in a Cell, quoi.
Il était, voilà. Il était un peu relou quand même.
En plus,
ce qui était bien, c'est parce que c'était la FUD entre les gros de la destruction.
Bah, après, il y a peut-être le Legacy DX qui est un peu dans le genre Hell in a Cell, mais je trouve qu'un 2 contre 2, ça vaut pas un contre 1. C'est pas assez. Enfin, ça le fait pas, quoi.
Il y en a eu quand même des 2 contre 2 qui... dans cette stipulation.
Ouais, il y a celui de Raw.
Il y en a eu 3.
Raw en 90, mais bon, il compte pas trop.
C'était en Arrow, c'était ouais. C'était
pas... C'est vrai qu'ils sont quand même précisés qu'il y a eu, deux Hell in a Cell en weekly, Arrow. Ça, c'était le deuxième et le quatrième, c'est ça?
Ouais, mais ça servait vraiment à la feuille, quoi.
Oui, voilà. Parce qu'en plus, les deux, c'était entre le Taker Mankind.
Ouais, voilà.
C'était en 88, c'était en... Ouais, donc, forcément.
D'accord, donc je pense qu'on a bien fait le tour de vos points de vue, à la fois en termes de construction, de sang. Du coup, je vais vous poser la question qui tue. Vous allez me faire un top 3 de vos Hell in a Cell préférés. Donc, Canette, si tu veux bien commencer.
Ouais, alors moi, mon préféré, Armageddon 2000, celui avec 6 hommes. Hein. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. Il y a tout ce qu'il faut pour un Hell in a Cell. On a un bon brawl, on a des bumps, on a une bonne utilisation de la cage. Donc voilà, ça c'est mon préféré. Alors après, il y a le King of the Ring 98 entre l'Undertaker et Mankind, qui est vraiment mythique, simplement. On a vraiment des bons bumps. Voilà, ça amène en plus vraiment le hardcore dans la stipulation, avec les punaises et tout ce qu'on a. Et alors mon troisième préféré, c'est un plus récent, c'est celui à SummerSlam en 2008, donc entre l'Undertaker et Edge, qui est pour moi le meilleur niveau construction, qui est vraiment très bon. Il y a des moments mémorables entre les deux hommes qui passent à travers la cage, Edge qui finit dans les flammes. Voilà, c'est vraiment très très sympa pour moi aussi.
D'accord, ben je retiendrai que 98 c'est une date à retenir sur le calendrier belge. Et,
Vintage Canette. Take Néron.
Exactement, du bon vintage. Hein.
Yeah.
Donc Sarah, tes trois Hell in a Cell préférés?
Alors le troisième, je dirais la DX contre Vince et Big Show. Il était sanglant, violent. Et en deuxième, je dirais le tout premier Taker avec Ed Buckley. Parce que c'est éduqué. Et mon préféré, ça reste Taker Edge, parce que au niveau de la construction du match et de la fin.
D'accord. Donc effectivement, on finit par l'enfer, ça m'étonne pas de toi. Panda, du coup, ton top 3?
Moi, je pense que je vais avoir un top 3 un petit peu chelou. En 3, je mettrai le HBK contre Taker, donc le premier, parce que quand même, se mettre dans le contexte, c'était le premier Hell in a Cell, donc les gens ne savaient pas du tout à quoi ils allaient s'attendre. Et on a vu un Taker encore jeune à l'époque, quoi, entre guillemets, contre un HBK bourré aux amphétamines, mais bon, très blessure. Il éloigna des rings à un moment. Et donc assez sanglant, et on les a vus monter sur la cage, balancer la tête la première, enfin assez intéressant. En deuxième, le Taker Mankind de l'année d'après, 98. Pour les cours que Mankind a donné en haute voltage, mais l'émotion que ça a dégagé, mais surtout le sac de punaise. Qui, je crois, est un accessoire malheureusement peu usité de nos jours. Et enfin, pour finir, mon petit moment favori, c'est pas un moment Hell in a Cell en soi, c'est le DX contre les McMahon et le Big Show, qui était à l'époque champion ECW, avec un Big Show en position de 619 qui se fait bien, mais je dirais bien lécher le derrière par notre ami VKM. qui est donc avant de passer par la troisième corde, donc voilà.
Je le Big Show par-dessus la troisième corde, c'est vintage.
C'est ça,
aussi.
Ça c'est vintage. Ouais.
Bon, et puis tu nous feras une belle vidéo là-dessus, je sens. Major Tom, ton top 3.
Ouais, donc je vais faire peut-être le top 3 de ceux qui n'ont pas été cités. Donc en troisième position, je mets le Orton Sheamus d'il y a 3 semaines, qui pour moi est le meilleur match de Sheamus, tout match confondu, et probablement le meilleur d'Orton depuis son Viper Turn. Depuis son retour en 2008, quoi. Un match bien construit, et franchement, c'était pas gagné parce que quand on voyait leur match de SummerSlam, il y a eu des améliorations quand même. Hein, parce que c'était vrai. Franchement, SummerSlam, j'ai détesté, c'était une purge. Donc là, c'est vraiment une bonne surprise. C'était la bonne surprise du pay-per-view. En deuxième position, je vais mettre Batista Undertaker au Survivor Series 2007. Encore une fois, c'est une feud qui est assez bien construite. Bon, c'est deux faces, mais bon, finalement, c'est pas trop grave. Le retour d'Edge à la fin, la victoire de Batista, finalement, bon, il gardera pas son titre longtemps après ça, mais bon, c'est pas grave. C'est un bon match, quoi. C'est bon bum, bon spot et tout. C'est intéressant. Et en premier, quand même, le Triple H Michaels de Bad Blood 2004. Donc un Triple H en pleine évolution. Évolution, le gang, quoi. Et donc un match qui dure presque 50 minutes, vraiment très sanglant, ils font le tour de la cage, ils vont un peu partout. Et un bon match, quoi, vraiment un match très solide. C'est pas forcément mon préféré, tout match confondu, mais de ceux qui n'ont pas été cités, je pense que ça méritait au moins qu'on en parle.
En tout cas, voilà. C'était le plus long Elinocel de l'histoire, effectivement.
Ouais.
Et on finit sur Tsuru, alors ton top 3.
Alors je demande l'autorisation exceptionnelle de faire un top 4.
Allez, accordé.
Rejeté.
Oh putain.
Alors, en 4, je vais mettre Sheamus contre Orton. Bon, bah, wow. Je vais plus soyer ce qu'a dit Major en ajoutant que je trouve que c'est vraiment le meilleur match qui ait jamais fait Orton. Enfin, j'en vois pas un qui est au-dessus.
On pourra en discuter.
Mais ouais, sont les Axel. Mecs qui veulent bien se faire voir d'Axel quand même, hein.
Ouais, trop.
Vous allez le laisser parler, oui, pour son top 4.
Bah, donc, pour ce match, voilà, évidemment, comme l'avait dit Panda, je crois que c'était Panda qui l'avait dit il y a quelques minutes, ouais, on aurait très bien pu faire ce match sans cage, mais bon, j'ai trouvé ça très bien, très passionnant.
Donc. Tant que le match est bon,
ouais.
On s'en fout, à la limite. Hein.
Bon, ensuite, le troisième, c'est Mankind contre Undertaker. Donc, bon, voilà, hein, déjà dit, un truc qui reste dans les mémoires grâce aux deux chutes. En second, Edge Undertaker. Bon, pareil, c'est assez. Ça a déjà été dit, enfin, on a un peu tous ces mêmes matchs préférés, en même temps, c'est un peu normal. Mais bon, je sais pas, je pense qu'on a tous vu ce match, c'est un des premiers matchs du genre qu'on ait vu, je pense, pour beaucoup. Ouais. Personnellement, c'est mon cas, c'est le premier Inuset que j'ai vu.
Moi aussi.
Oui, c'est sûr.
Bon, voilà, non seulement il y a la nouveauté, mais en plus, il y a une vraie qualité derrière. Et pour finir, le HBK contre Undertaker. Donc, c'est peut-être le meilleur match de l'histoire de la WWE. Enfin, c'en est pas loin.
Oui, jusque là.
Voilà. Enfin, j'ai rien à ajouter.
C'est vrai que quand même, Edge qui finit dans les flammes de l'enfer, c'est vrai que c'est assez impressionnant. D'ailleurs, on peut se demander qu'est-ce que c'est le pire, c'est quoi l'enfer exactement, si c'est mieux les flammes ou Vicky, etc.
C'est une nuit avec Vicky, hein. Ah, je
prends les flammes. Laissez Vicky tranquille. Excuse me, hein.
Je suis pas sûr qu'elle vous excuse pour ce coup-là. Et j'ai une dernière question à vous poser avant de rendre l'antenne. C'était à votre avis, dans l'avenir, quels sont les catcheurs qui pourront faire des grands matchs chez l'INSL à l'image des noms qui reviennent par le passé, comme Triple H, Undertaker, Mankind. Enfin, dans l'avenir, qui voyez-vous nous livrer des grands matchs avec cette stipulation? Panda.
Ouais, moi ça va peut-être surprendre les gens, mais tant pis, j'aurai des commentaires sur le forum. Je verrais bien Sheamus, qui a déjà prouvé que quand même il pouvait le foutre dans une cage, contre un lutteur qui va peut-être vous surprendre, à savoir Skip Sheffield. ça ferait gros match de bourrin. Ça s'entend bon la testostérone et ça pourrait être pas mal.
C'est vrai que ça colle assez avec les gabarits qui ont plus ou moins triomphé dans la ligne de salle jusque-là. Canette, tu vois qui ?
Bah, clairement, Chimes aussi, pour moi. Il va pouvoir faire des bons trucs là-dedans.
Ah, c'est facile, il l'a déjà fait.
Ouais, voilà. Mais enfin, je veux dire, si jamais il y a retour de l'utilisation de la cage et tout, il y a moyen qu'il fasse encore mieux. Et puis, Triple H, bon, voilà. Je veux dire de plus, il a déjà fait plein de bons matchs et il pourra encore en faire dans le futur.
C'est vrai que je crois que sur les 21 Hell in a Cell, on a eu que 3 où il n'y avait pas eu ou le Taker ou Triple H, ou les deux.
Ah, peut-être un chouïa plus maintenant.
Je crois que le troisième, c'est pas le Orton Chimus.
Oui, si.
Ah, peut-être.
Orton Cena et Orton Chimus ces deux dernières années. Et puis alors, il y avait au début Ken Mankind.
Oui. Bien vu. Un match qui n'est pas resté dans l'histoire. Hein.
Non, mais c'était en weekly aussi.
Ouais, c'était en weekly.
D'accord. Donc, Tsuru, tu vois qui dans l'avenir nous sortir de grands matchs dans la cage ?
Bon, bah, comme un peu tout le monde, Sheamus. Donc, non seulement il a montré qu'il était apte pour ce genre de match, mais en plus, il y a le physique qui va avec, quoi. Ensuite, Ezekiel Jackson. Alors j'aime bien ce type. On a vu qu'il il a un physique, je pense qu'on est tous d'accord. Et il a déjà fait un bon match, enfin voir un ou deux matchs contre Christian à la OCW, qui était vraiment bon pour un big man. Donc voilà. Et enfin, là, peut-être une petite surprise, Daniel Bryan. Alors je m'explique. Ah, c'est vrai,
ouais. Alors, je vais le dire.
Désolé. En fait, j'en ai un autre après que je vais peut-être t'envoler encore un, mais bon. Alors Daniel Bryan. On va voir comment il va évoluer. Bon, évidemment, s'il reste en feu contre, je sais pas qui, genre, R-Truth, pour le titre US, évidemment, il va pas faire un Line Cell avec. Mais bon. Si l'excellent Mail Event, je pense qu'il a il a le truc pour faire un truc bien violent, pour ceux qui veulent voir ce que ça peut donner, aller voir des matchs de la ROH, contre Morishima, je pense que c'est assez probant de ses capacités.
Je me disais, t'avais pas cité de culture japonais.
Ah merde, j'ai pas. Et le dernier.
Il a craqué avant la fin.
Alors là, ça va être une grosse surprise pour tout le monde. Morrison. Oui.
Jomo.
Morrison. Oui, voilà. J'ai trouvé son match contre Sheamus à Raw vraiment bon. Enfin, dans un univers, on va dire, sans disqualification, je pense qu'il y a matière à faire et ça changerait du physique habituel de Big Man qu'on voit dans cette type. Donc, je demande à voir. Il y a peu de chances pour que ça arrive, mais en soi, l'idée me déplaît pas.
Sait-on jamais, peut-être que justement le no disqualification entre les deux hommes ont poussé les bookers de la WWE à penser à quelque chose d'inattendu comme John Morrison en Hell in a Cell, why not?
Ah non, hein.
Rendez-vous dans un an.
T'as pas une canette l'idée non, te plaît?
Non, pas d'accord.
Enfin, bah vas-y, tant qu'on y est.
Comment, je suis pas un fan de John Morrison, c'est tout. Pour moi, je suis pas fan de la High Flyer en général, donc voilà, à partir de là...
Bah en fait, je suis pas spécialement un fan de Morrison non plus. D'ailleurs, il y a un pari avec Axel qui tient toujours, hein, on pourra en parler.
Ouais, que t'as quelques chances de gagner.
Mais bon, voilà, je sais pas, je trouve qu'il a changé positivement depuis quelques semaines. Il dégage un truc. Sinon, je suis pas fan de Pepper non plus.
Excuse-moi, Tsuru, tu peux rappeler le pari avec Axel?
Alors, le pari, en gros, c'était fait au début de l'année, donc de cette année. J'ai parié qu'Axel, si Morrison devient champion du monde avant la fin de l'année, j'écris un article à la gloire de Morrison, et si il ne devient pas champion du monde, ce qui a l'air d'être bien parti, Axel doit écrire un article contre Morrison, en sachant que Axel adore Morrison, et que moi, je l'aimais vraiment pas en début d'année, bon là ça va un peu mieux, mais bon, j'aimais pas trop, quoi.
Ok, donc Major Tom, tu vois qui dans les catcheurs actuels nous sortir de bons Hell in a Cell dans l'avenir?
Ah, moi. Non, je ne présente pas moi. Non. Ok, ça fait un bide. Ok, pas coupé au montage, ma blague. Ok, non, sérieusement. Non,
tu auras un petit Geoffroy Le Hardy d'or, mais sur ta cheminée avec cette blague.
Je la prépare depuis un quart d'heure, tant pis, voilà. Bon, non, sérieusement, bon, déjà, je voulais revenir sur le fait que la ligne SL, c'est pas forcément une stipulation pour catcheur technique. Bon, on a vu que les matchs, c'est bien bourrin, et que, d'ailleurs, on a vu Panda, Canette et Tsuru ont surtout cité des big men. Moi, je voudrais citer Swagger. J'aime bien, je pense qu'il a les capacités pour tenir bien 15, 20, 30 minutes dans un Hell in a Cell. Il est bon, il est pâle, il est stiff, il est vraiment, vraiment agréable à avoir catché, et je pense que c'est un genre de mec qui est vraiment polyvalent et qui est capable sur toutes les stipulations de faire un bon match, et ça inclut les Hell in a Cell.
Tu vois, Hell in a Cell, Swagger MVP.
Swagger MVP. Pas obligé de mettre MVP.
Par rapport à la fête qu'ils ont eu.
Ah ouais, sacré feu, non.
Putain, je...
Honnêtement, à choisir entre MVP et Swagger main event, je choisis MVP. Hein. Ah, je vais me prendre des pierres, là.
Ouais, on risque de...
On fera un beau petit débat pour...
Voilà, ça on se battra la prochaine fois.
Et puis on va finir, last but not least, par Sarah. Donc, qui vois-tu parmi les catcheurs actuels nous sortir un grand match dans la cage?
Jericho.
Because I am the best in the world at what I do.
Encore?
Non. Bah oui.
Ah, si, il fallait que ça soit cité, tiens.
Je le devais. Ouais, Jericho, The Miz. Et ouais, Swagger.
D'accord. Bah écoutez, on a fait un bon tour des choses.
Et
donc,
toi, Silver, tu verrais qui?
Oh, bah.
Ah ah.
Honnêtement, je pense qu'on peut. Enfin bon, de toute façon, vous connaissez mon tropisme pour John Cena, donc je pense qu'on pourrait bien exploiter une partie un peu violente de Cena dans le Hell in a Cell. Ça pourrait être un moyen de lui faire switcher de gimmick.
Tu vois un Cena Barrett peut-être?
Barrett, pas fin. Ouais, ça peut.
Ça serait pas mal pour conclure la Fed.
J'aime bien Barrett, moi.
Ah, c'est con, on peut pas faire des Hell in a Cell là.
Faudrait que c'est. Voilà,
mais non, là, c'est fou, faut attendre un an.
D'où l'inutilité de ce pay-per-view. Voilà.
Exactement. Ah oui, c'est sûr qu'on serait bien d'accord. Avec une stèle, mettons, à WrestleMania.
Oui, par exemple.
Généralement, ils sont plutôt après WrestleMania, les une stèle. Enfin,
ouais, il y en a pas eu un seul.
Un SummerSlam, ça aurait été pas mal, parce que ça laisse le temps à la faute de monter, et puis genre Barrett qui a un gros match à WrestleMania. Enfin, je peux...
Tu parles du SummerSlam dans 11 mois?
Oui.
Bah, 10 mois?
Oui, voilà.
Oula.
T'as le temps de...
T'as le temps de revenir. Hein.
Ah oui, mon grand. Mais justement, tu peux faire plein de trucs. Hein. Ça laisse... ouais. Ah, disons qu'en février, t'as l'Elimination Chamber, donc forcément, ça fait déjà un match dans un espace confiné.
Voilà. À plusieurs catcheurs, forcément.
Voilà, avec plusieurs catcheurs.
Bon, je sais pas si on a fait le tour, mais je pense qu'on a vu pas mal de choses.
Vérifié.
Je sais pas.
Ah.
Et oui, coupure montage 1-2-1-2, je viens de me faire découper en deux, tel inspire d'Edge dans la poire.
Allez, bouge.
Donc on va conclure. Donc merci à tous d'avoir participé à ce débat et merci à tous nos radiospectateurs qui ne se sont pas endormis et qui sont encore debout sur leur chaise à ce moment-là de l'émission. Donc merci Sarah de nous avoir accompagnés, nous cinq grosses brutes, pour amener ta finesse. Merci Major qui avait eu lieu de dire original au passage pour ses émissions radio.
Gros big up à Major.
Ouais.
Donne ton 06.
Vas-y, donne-le là maintenant.
Vas-y à l'antenne tout de suite.
Je donnerai si on atteint la centième émission.
Allez, on fait ça pour la centième émission. MT donne son 06.
Déjà, donc, on
atteint le premier numéro du mien.
La cinquième. Ah là, on va avoir des fans si tu fais ça.
Bon, et puis après, on donnera
le dixième numéro, Sarah, enlève le haut.
C'est ça. Merci Panda pour ta participation.
Mais de rien mon grand, ce fut un plaisir.
Mais partagez. Canette, de loin, mais merci beaucoup pour ta participation et ton absence. Parce que bon, t'es pas là.
Et Canette a eu un petit souci là, de connexion. Mais
il
bon.
Y a comme qui dirait une connexion de merde.
Voilà, il vous donne un bon coup de néon sur la gueule, ne vous inquiétez pas.
C'est ça. Vive la Belgique libre.
Ouais. Donc,
la Belgique indépendante.
Vive le délire.
Merci Tsuru pour ta compétence, ouais, toujours confirmée.
Ah, merci.
Sans toi, il n'y aurait pas de débat.
Ah, mais je sais. Hein. Je me demande ce que je fais avec vous, en fait.
Et puis, bon, Kenneth revient, mais le temps qu'il revienne. Merci Silver hein, pour ton inutilité permanente et récurrente.
Ouais, non, mais tu as été utile en chronique.
Merci Silver.
Tu as été là, c'est déjà beau de ta part.
C'est ça, offrir un cadeau explosif, c'est important.
C'est voilà.
Il y aura un t-shirt de Sina.
Ouais.
Cassé, violet.
Et donc, je tenais également à remercier Canette, venue de la Belgique jusqu'ici, pour nous apporter sa science. Donc, merci Canette.
De rien, et le néant vous remercie aussi.
Eh ben, j'espère qu'il ne remerciera pas trop, en fait.
Le néant, on est à toi.
Salut.
Tout. Awesome!